Il est midi, c'est l'heure de collecter votre cerveau à l'Hippocampe, présenté par Fabien Olicard.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'Hippocampe, le podcast où votre cerveau trempe un petit peu. Et avant de le faire sécher, on va avoir un vent de fraîcheur avec une invitée très spéciale qui va m'apprendre des choses. C'est un peu la continuité de la série « Comment se lancer sur les réseaux sociaux ?» Et bien dedans, on parlait aussi d'apprendre de ceux qui savent mieux que vous et de regarder, d'analyser. Et c'est exactement ce qui va se passer aujourd'hui. J'ai un grand plaisir de ne pas être seul. On va commencer par un peu le passeport et la carte d'identité. Bonjour, qui êtes-vous de l'autre côté du micro? Quel est votre nom? Que faites-vous dans la vie?
Ah, déjà, salut Fabien, je suis hyper contente d'être là. Je m'appelle Pauline Léniaud, j'ai 37 ans et toutes mes dents, et je suis entrepreneur de profession. J'ai créé une boîte qui s'appelle Gemio, qui est une marque de joaillerie. Et au-delà de ça, j'ai créé maintenant, il y a 2 ans, un podcast qui s'appelle Le Gratin. Qui interviewent des personnalités remarquables, comme toi par exemple, pour décrypter leur parcours et puis donner plein d'astuces. Mais au-delà d'astuces, moi ce que j'aime bien, c'est les processus de pensée. Donc essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui a fait que telle personne a pris telle décision, est-ce qu'elle l'a regrettée ou pas, et essayer de faire ses partages d'expériences. Et aujourd'hui, c'est le premier podcast business en France.
Et c'est incroyable. Et moi, je t'ai découvert du coup par Le Gratin. C'est comme ça que j'ai découvert ce que tu faisais. C'est dans... Il est numéro 1, mais ce n'est pas un hasard. Moi, c'est mon préféré dans cette catégorie-là.
Écoute, je l'apprends, ça me fait plaisir.
Mais moi, j'étais refait qu'on puisse faire un truc ensemble, vraiment. Et du coup, il y a des questions. Je n'ai pas cherché du tout à creuser mon sujet, à le préparer. Donc, la première question, c'est t'as commencé le podcast quand?
J'ai commencé le podcast, écoute, autour du 1er mars 2018. Je l'ai lancé, alors tu me poses pas la question, mais je vais te dire pourquoi.
Te la poser, donc vas-y, n'hésite pas.
Excuse-moi. En fait, j'avais créé cette boîte qui existait depuis un moment, 6-7 ans, Gemio. Et en fait, je sais pas si t'es arrivé, mais quand tu crées une boîte, au bout d'un moment, t'arrives un peu à une croisée des chemins. Et la question, c'était, est-ce que je continue? Est-ce que je rempile pendant 5, 10, 20 ans, peut-être toute ma vie? Ou est-ce que je passe à autre chose? Et sincèrement, je ne savais pas trop à ce moment-là. Il y avait des choses qui se passaient très bien dans la boîte, il y avait des choses qui se passaient moins bien. Et du coup, je me suis sincèrement posé la question et j'avais besoin, je pense, de conseils et j'avais besoin de prise de recul très forte. Et du coup, j'ai essayé un petit peu de demander des conseils autour de moi, etc. Mais je me suis rendu compte que j'y arrivais pas tellement. Et donc, j'ai essayé de me dire, OK, comment est-ce que je peux essayer de scaler ça? Comment est-ce que je peux faire en sorte de rencontrer des personnes qui vont réellement me donner des conseils pour que j'arrive finalement
à... faire croire que je fais des interviews.
Je vais leur faire croire que ça va leur servir, mais en fait, je vais leur pomper plein d'infos. C'était un peu l'idée. Et blague à part, en fait, je l'ai vraiment fait parce que j'avais besoin de me nourrir de quelque chose d'extérieur.
Oui.
Et donc, en fait, ça, c'était un peu l'idée de départ. J'ai commencé à écouter des podcasts aussi à ce moment-là parce que, justement, ça me permettait de me nourrir. Et en fait, étant entrepreneur, j'ai vu une opportunité, si tu veux, qui était qu'à l'époque, tu allais sur l'application Apple Podcasts en France et sincèrement, à part les grosses têtes, et puis il n'y avait rien.
Ouais. Alors, aujourd'hui, en tant que consommateur de podcasts, je trouve ça toujours très compliqué de trouver des nouvelles choses. Hein. J'ai encore l'impression qu'il y a Cantlou et les grosses têtes, hein, c'est tout.
Dans les top classements, oui. Il y en a quand même encore beaucoup qui sont juste en fait ce qu'on appelle des podcasts non natifs, c'est-à-dire en fait de la rediffusion, si tu veux, d'une émission télé. Forcément, parce qu'il y a énormément d'audience, tu vois, de base. Pas de télé, d'ailleurs, radio. Mais voilà. Donc en fait, j'ai fait ce constat. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Moi, j'écoutais plutôt des podcasts anglo-saxons. Il y a des podcasts mais magnifiques aux États-Unis qui ont quasiment changé ma vie, si tu veux, qui m'ont fait vraiment prendre conscience de plein de choses. Et je me suis dit, il n'y a pas d'équivalent en France, ça n'est pas normal. Peut-être que je ne suis pas la bonne personne pour le faire, mais j'ai bien envie d'essayer. Et donc, je me suis dit, je tente. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de faire 3-4 épisodes pour voir si ça me plaît, si je ne suis pas si nulle, si j'arrive juste à le faire, tu vois. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée.
Et ça, c'est super. C'est quelque chose que j'ai déjà dit, moi, ici, sur l'Hippocampe, à savoir, déjà, le premier point pour savoir si le fantasme d'essayer de faire quelque chose qui est censé nous plaît vraiment, c'est de le faire un petit peu et d'essayer de faire ça. Donc du coup, tu te lances un peu à l'arrache.
Complètement à l'arrache.
C'est bien, ça, tu sers tous les propos que j'ai dit sur ce podcast, c'est parfait.
Le premier épisode, j'ai pas fait les choses complètement de manière débile parce que j'avais quand même l'expérience d'avoir créé plusieurs entreprises avant. Mais en fait, je me suis dit, je vais prendre une personne que je connais parce qu'en fait, plutôt que de commencer tout de suite par essayer de viser quelqu'un d'inaccessible, machin et tout, j'ai pris quelqu'un que je connaissais avec laquelle j'étais à l'aise. Je lui ai expliqué que c'était mon premier épisode, que j'étais hyper stressée, etc. On l'a fait chez moi. Donc, tu vois, je contrôlais le cadre. Déjà, ça, c'était hyper important pour moi. Et d'autre part, j'ai pas mis beaucoup beaucoup de temps en fait à le réaliser. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais pas prendre 3 mois, tu vois, pour caler les trucs, acheter le matériel. Franchement, entre le moment où j'ai pris la décision et le moment où j'ai fait le premier épisode, je pense qu'il y a eu 2 semaines. Et du coup, c'est possible hein, déjà de faire un podcast en 2 semaines. Il y a eu 2 semaines et du coup, j'avais pas tout mon matos. J'avais pas reçu mes 2 micros livrés de chez Amazon. Il y avait un qui était en retard. Donc du coup, je passais le micro à la fille. Enfin, si tu veux, c'était le bordel total. Du coup, le son est pas génial. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, j'ai quand même adoré l'expérience.
Ouais, ça existe. T'as aimé faire ça.
Et puis, j'ai réussi à le faire, tu vois. Ouais. Et puis, c'était pas grave. Donc, ouais. Donc j'ai préféré... je me rappelle, je m'étais mis une deadline. Je crois que c'était... je devais faire l'enregistrement le 28 février ou quelque chose comme ça. Et j'avais pas reçu le micro et je me suis dit, est-ce que je le fais quand même ou pas? Et je sais que c'est quelque chose qui te parle parce que tu fais un peu la même chose, mais je me suis dit, bah, je m'en fous, je le fais quand même en fait.
Ouais, pas d'excuses. Ah, c'est ça, pas d'excuses, pas de compensation. Sur l'ancien épisode de l'Hippocampe, sur ce sujet, je disais, le meilleur moment pour se lancer, pour répondre à une question qu'on m'avait posée, c'est maintenant. En fait, c'est pas dans plus 3 mois, c'est pas dans plus 6 mois, c'est maintenant. Donc toi, tu te lances à ton maintenant, à toi, et quels sont tes objectifs? Est-ce que, si objectif tu as, est-ce que tu te dis, j'espère avoir tant d'écoute à un moment donné ou juste j'ai envie de le faire?
Sincèrement, alors, je vais être très honnête avec toi, je pense que je rêvais secrètement que ça marche, oui. Ça c'est sûr, enfin, secrètement, pas si secrètement, hein, je l'avais dit à mon mari et tout, mais je rêvais que ça marche, mais j'avais complètement laissé la porte ouverte au fait que ça soit un plantage monumental, que, entre guillemets, je me sois tapé la honte d'avoir dit à tous mes potes que j'allais lancer un podcast et qu'en fait, tout le monde trouve ça nul, tu vois. Et j'essayais d'avoir l'honnêteté intellectuelle de m'en rendre compte, ce qui est très difficile, surtout quand c'est quelque chose qui te plaît, quand l'exercice te plaît. Parce que je me suis rendu compte assez vite que ça me plaisait. Et je me suis posé la question, ok, est-ce que ça me plaît, mais est-ce que c'est
est-ce
bien
que je pourrais être objective?
et en fait, bah, là où j'ai eu de la chance, bon, je l'ai suscité, hein, mais j'ai quand même eu beaucoup de chance, évidemment, c'est qu'il y a commencé à avoir une audience de plus en plus conséquente très vite. Et donc je me suis dit, bah, non seulement ça me plaît, mais visiblement, il y a un marché qui est intéressé par ce que je produis. Mmh. Et donc, ce qui fait que j'ai toujours continué.
Ton point de bascule, à quel moment tu te dis, ok, là, on est sur quelque chose qui va rouler?
Là où j'ai eu beaucoup de chance, il n'y a pas eu de point de bascule, mais là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que, et ça va pas servir ton discours, je pense, mais dès le premier épisode, comme j'avais vraiment, en fait, pas de concurrence quasiment, que par ailleurs, j'avais fait les choses bien, et ça peut être un conseil pour les personnes qui souhaitent se lancer dans le monde du podcast, qui était que j'avais quand même pris une personne qui a beaucoup de contenu intéressant à raconter et qui, par ailleurs, avait une assez forte communauté. En fait, si tu veux, ça a donné tout de suite beaucoup de visibilité.
Un élan, bien sûr. Ouais.
Voilà, ça a donné de la visibilité. Alors, c'était un risque, parce qu'en fait, si j'avais été vraiment nulle, et d'ailleurs, c'était un peu nul, hein, le premier épisode, parce qu'en vérité, moi, j'étais nulle. Elle était très bien, mais moi, j'étais nulle. Donc, c'était un risque, mais j'ai préféré quand même prendre ce risque pour aussi donner une vraie chance quand même au podcast, tu vois. Et donc, je ne l'ai pas fait en mode soft launch. Clairement, j'ai mis tout ce que j'avais tout de suite sur la table en mode, ben, je teste à fond et ensuite, comme ça, je peux vraiment apprendre. Parce que moi, ma crainte, si tu veux, c'était de me dire, si jamais je le lance en mode j'apprends, bah en fait, peut-être que je ne vais jamais vraiment apprendre parce qu'en fait, j'ai tout le temps reproduire la même chose. Et donc, j'avais besoin, si tu veux, de commencer à avoir une audience qui me dise ben, c'est bien ou c'est pas bien. Et donc, c'est pour ça que je l'ai fait comme ça et je ne le regrette pas, même si une fois de plus, c'était assez risqué. Donc, en fait, je trouve ça
chouette. C'était le meilleur moyen d'avoir un feedback. Il n'y a pas qu'un chemin pour essayer les choses. Et celui-là, il est couillu, clairement. Donc, c'est très, très cool de l'avoir fait comme ça. En plus de ça, tu étais nouvelle, entre guillemets.
Mais j'y connaissais rien.
Et puis, ton contenu était nouveau pour du contenu français. Moi, j'ai vécu ça avec YouTube en amenant du mentalisme sur YouTube, qui peut être, qui peut resserrer la niche ou qui peut aussi en faire une force. Et aujourd'hui, t'en fais une force. Comment tu regardes aujourd'hui ton podcast? Mais là, je le parle en tant que produit, en tant que l'ensemble. Tu regardes ça comme une mère contente de son enfant ou tu te dis, il y a encore tout à construire?
En fait, si tu veux, de temps en temps, j'ai un peu de mal à me réécouter, mais je fais des efforts pour me réécouter, pour m'améliorer. J'ai tellement de tics de langage. Je baragouine, j'utilise des mots qui sont génériques, si tu veux, au lieu d'être spécifiques. Enfin, j'ai un nombre, si tu veux, de défauts qui me rendent folle, que j'ai envie de changer, que j'arrive pas forcément à changer. Donc, j'ai plein, effectivement, de projets d'amélioration, tant au niveau de la forme que du fond, que des types de contenus, parce qu'en réalité, le podcast a évolué. J'ai commencé, en fait... en m'inspirant très fortement, sincèrement, de podcasts américains. Mais ce qui était bien, parce que ça m'a permis, si tu veux, d'avoir confiance en moi et de me dire, bon, bah, y a une structure. Et en fait, bah, plus j'avance avec le temps, plus je m'en libère. Et peut-être pour rejoindre ta question précédente qui était dire à quel moment est-ce que tu as commencé à croire que ça allait marcher, c'est peut-être le moment où j'ai commencé à me dire, bah, en fait, je peux être moi-même, si tu veux, et je peux arrêter, entre guillemets, de copier ce que font les autres et commencer à inventer, en fait, des concepts. Et ça, ça a mis quand même pas mal de temps. Je pense que ça a dû mettre quelque chose comme 6 mois, ou ouais, pas loin de 6 mois quand même, ou à force d'un épisode par semaine, malgré tout, j'ai commencé à me libérer, en fait. Ouais. J'ai commencé à me dire, maintenant, en fait, je peux le faire comme je veux. Je fais mes intros différemment, à ma manière, et tant pis si je suis les seule à les faire comme ça. C'est pas grave s'il n'y a pas de montage, vraiment. C'est pas grave si ça dure pile une heure et pas je sais pas quoi. Donc, en fait, j'ai commencé à me libérer d'un certain nombre de carcans, et c'est ça qui a fait que je pense que ça a mieux marché. Et typiquement, moi, j'ai un épisode dans le gratin qui est une interview où j'interview des personnalités remarquables, donc pour parler de leur parcours. Mais j'ai aussi d'autres types d'épisodes. J'ai un book club parce que j'aime la littérature et juste j'avais envie de faire ça. Et j'ai envie d'inciter les gens à lire parce que c'est un truc que j'adore partager. J'ai aussi un autre format qui s'appelle les leçons du gratin. Les leçons du gratin, c'est un truc qui n'existe pas trop. C'est en fait, je réponds aux questions de mon audience, majoritairement sur l'entrepreneuriat, mais pas que. Enfin, en tout cas, sur des sujets où j'estime pouvoir discuter avec eux, échanger avec eux. Et du coup, ça, je l'ai fait aussi au bout de 6 mois à peu près. Je pense que j'aurais pas pu commencer par ça parce que je pensais pas avoir la légitimité, parce que je pense que j'aurais pas pu penser à ce type de format. Et finalement, ce que je trouve assez chouette, c'est que maintenant, je me libère de plus en plus pour justement, si j'ai envie de faire une interview qui dure 3 heures, je fais en sorte qu'elle dure 3 heures. Si elle dure que 20 minutes, elle dure que 20 minutes. Je m'en fous, en fait. Je le fais parce que j'ai juste envie que ça soit bien.
Oui, c'est pas du mauvais « je m'en fous », c'est le bon « je m'en fous ». Et souvent, quand on s'inspire de quelque chose, il faut vraiment être contre cette chose. Dans un premier temps, je vous le dis aussi à vous aussi, parce que c'est quelque chose qui me parle, dans un premier temps, on est contre dans le sens où on s'appuie, et c'est ça qui est rassurant parce que ça donne le cadre, et après on est contre dans l'autre sens, c'est-à-dire on s'en libère complètement, et c'est ce que tu as fait. Et du coup, c'est très intéressant parce que on voit aussi tout l'intérêt de lancer son premier contenu, que ce soit sur un podcast ou autre chose, avant de chercher à faire ses multi-contenus, etc. On ne sait pas vraiment ce qu'on a envie de faire tant qu'on ne l'a pas expérimenté. Donc, c'est aussi intéressant de dire ça quand on me dit, moi, je vais lancer ma chaîne YouTube ou mon machin, quand j'aurai affiné mes concepts et tout. Mais quel concept ? Le concept, c'est toujours la personne. Et de toi, par tout ce que tu viens de parler, de toutes les choses dont tu t'affranchis, c'est ce qui fait ta couleur. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on t'aime et qu'on t'écoute et qu'on apprécie et qu'on ne retrouve pas ça ailleurs. Nous, on connaît ça bien aussi dans le milieu artistique, d'assumer sa couleur et de ne pas confondre ce qu'on aime chez les autres et ce qu'on va faire et ce qu'on sait faire, nous. Quoi. Sur l'interview que tu as faite de moi sur le gratin, que je vous invite à écouter d'ailleurs, qui sera sûrement publié entre-temps ou quasiment en même temps, je vous mettrai le lien. On parlait des personnes qui m'inspirent, personnes comme Verbère, le comte de Boudherbala, Alexandre Astier, mais elles m'inspirent, j'adore ce qu'ils font, et je sais exactement que c'est pas ça qu'il faut que je fasse, parce que je ne suis pas eux, quoi, tu vois. Et je trouve ça vraiment très mérité, du coup, cette place que tu as pris sur cette tranche-là de podcast. Du coup, j'ai encore 2 autres questions assez spécifiques. La première, c'est, est-ce qu'à un moment donné, ou jamais, ou encore aujourd'hui, tu as mis en place une stratégie pour développer ton podcast?
Alors oui, évidemment. Je vais être honnête, aujourd'hui, la croissance du podcast, donc, elle a toujours été assez continue. Souvent, les gens me posent la question, est-ce qu'il y a eu un moment, un effet cliquet, tu vois, une accélération? Il y a des petits paliers, notamment, je constate, et j'en ai déjà parlé avec d'autres podcasteurs, que c'est souvent le cas, en septembre et en janvier, je pense que les gens se disent...
Ah oui, on se met au podcast, je vais faire du sport.
Exactement, c'est un peu ça. Donc, je le constate, si tu veux, mais je pense que c'est juste le marché, c'est complètement indépendant de moi. Donc, ça, c'est la première chose. Mais au-delà de ça, moi, je n'ai pas constaté, si tu veux, d'accélération autre que, en fait, finalement, quelque chose, une croissance qui s'accélère.
Très organique,
ouais. Très organique, très organique. Et en fait, pour moi, finalement, les 2 secrets, mais ça ne va pas en fait, être très, très malin et très intéressant, c'est premièrement, avoir des invités qui ont des vrais contenus intéressants à raconter. Parce que je peux te garantir que je pense que mes 80% de ma croissance, en fait, c'est du repartage, c'est du bouche à oreille, en fait. Tu me parlais dans mon podcast, en fait, du bouche à oreille, justement, comme une source aussi très forte pour tes spectacles. Bah, en fait, c'est la même chose pour le podcast. Moi, le nombre de personnes qui partagent sur Insta, sur tout différent. Et puis même à l'oral, je l'entends pas. Mais tu vois, qui s'en parle. Tout le monde me dit tout le temps, je parle de ton podcast à d'autres personnes. Et donc,
il m'a été recommandé à l'oral.
Exactement. Ouais, ouais, bah tu vois, c'est ça. Ouais. Et en fait, je pense que, je n'arrive pas à l'estimer, si tu veux, mais je pense que vraiment 60%, 70% peut-être de mon audience, en fait, c'est du bouche à oreille. Et donc pour ça, en fait, pour le susciter, le bouche à oreille, il y a deux manières. Tu peux effectivement quand même le suggérer, donc dire aux gens, bah, ça m'aide beaucoup, n'hésitez pas à le dire, et ça fonctionne. Ok. Et autre chose, en fait, il faut juste avoir un putain de bon contenu, j'ai envie de dire.
Oui, c'est ça. Si c'est partageable, il sera partagé.
Et si tu arrives à trouver des pépites, des personnes, si tu veux, qui vont créer une émotion, moi, je crois beaucoup au fait que le podcast, c'est un très, très bon levier, donc certes d'apprentissage intellectuel, mais émotionnel. Parce qu'en fait, la voix, ça fait qu'il y a quand même,
oui, c'est vrai,
tu vois, quelque chose d'intime qui fait que tu le ressens, en fait. Il y a un côté un peu kinesthésique, si tu veux, dans le podcast. Et donc finalement, ce que je constate, c'est que les gens me disent « J'ai pleuré en écoutant ton podcast, si tu veux. » Et ça, mais c'est où je me suis plié en deux drés en écoutant Upset aussi dans un dernier épisode. Et ça, si tu veux, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. Et surtout, ce qui est génial, c'est que je sais que si ça arrive, le podcast, il va être partagé, mais à l'infini, quoi. Et donc, ça, c'est le premier levier. Le deuxième, au-delà d'avoir des bons invités, c'est aussi d'avoir, pas forcément des invités médiatiques, mais des invités qui vont avoir la possibilité de repartager aussi, évidemment. C'est bête à dire, mais le fait que j'ai un format interview et non pas uniquement moi qui parle seul, bah déjà, ça me permettait de rencontrer des gens que j'avais envie de rencontrer. Mais au-delà de ça, si eux ont envie, je force personne, tu vois, mais si jamais eux ont envie de le partager, bah en fait, ça va ouvrir à leur communauté. Et là où c'est super vertueux, c'est que moi, ça m'aide parce que ça fait connaître le podcast, mais eux, en fait, très souvent, c'est un moyen pour eux aussi de, en fait, révéler une partie de leur personnalité différente à leur communauté. Parce que très souvent, sur les réseaux sociaux et tout, on est quand même dans des temps qui sont assez courts. Alors, je connais moins YouTube, en tout cas beaucoup moins bien que toi, ça c'est évident, mais tu es quand même dans des temps assez courts. Et en fait, le podcast, comme tu passes une heure, en tout cas dans mon cas, avec la personne, voire 1h30, je t'assure, à la fin, tu as un peu l'impression de connaître la personne, mais vraiment. Et parce que tu connais ses tics de langage, c'est toi qui es mentaliste, c'est pas moi, mais je veux dire vraiment, tu connais la personne. Et donc ça fait que je pense que même pour mes invités, finalement, c'est assez intéressant de partager. Et donc, en fait, ça se fait naturellement, ils le partagent beaucoup. Comme en plus, la cible podcast aujourd'hui est assez niche, mais très, du coup, assez haut de gamme, si je puis dire, c'est-à-dire très bienveillante. Finalement, si tu veux, il n'y a pas de problème à partager. Les gens sont plutôt assez agréablement surpris par les retours. Et donc, finalement, je n'ai pas envie de te dire que je fais rien, mais moi, j'estime que mon métier, ce n'est pas tellement de faire du marketing avec le podcast, c'est de faire du produit. C'est-à-dire que je veux vraiment...
Faire le meilleur produit possible.
Je veux faire le meilleur produit possible. Moi, je suis, entre guillemets, directrice de création, si tu veux, avec le podcast. Après, j'ai un métier, par ailleurs, où je fais du marketing. Mais dans le cadre du podcast, mon meilleur marketing, c'est mon produit, si tu veux.
Non, mais c'est, du coup, c'est très intéressant. Parce que c'est la première fois que j'ai l'occasion de poser la question à quelqu'un qui fait du podcast depuis plus de 2 ans et qui a rencontré un succès. Du coup, j'ai une autre question qui en découle plus ou moins, mais est-ce qu'il y a un business model du coup derrière le podcast, qui soit direct ou indirect? Par exemple, pour être très honnête avec toi, moi, YouTube, on croit que c'est un business model direct, alors que pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est pas le peu d'argent qu'on gagne avec le AdSense, c'est vraiment les personnes qui vont s'intéresser à mon spectacle, à mes livres, à des choses comme ça, tu vois.
Alors c'est, je pense, très similaire. Je pense que comme pour YouTube, tu peux faire de la publicité, il y a de la publicité sur le monde du podcast. Il trouve que, en fait, si tu veux, je ne sais pas comment ça se passe sur YouTube, une fois de plus, je ne connais pas très très bien, mais sur le monde du podcast, ça s'appelle du pré-roll, c'est une publicité en début d'épisode.
On a la même.
Voilà, c'est ça, et ça fonctionne bien, c'est-à-dire que je pense qu'il faut être très vigilant, parce qu'en fait, tout ça impacte le produit au final, donc il ne faut pas bouffer à tous les râteliers, j'en fais, ça me permet d'ailleurs de développer l'activité et de financer une grosse partie de l'équipe du podcast. Mais bon, disons que c'est ça le business model. Je pense qu'il se cherche encore un peu, mais sincèrement, moi, ça ne me dérange pas du tout d'en parler si tu veux rentrer plus dans les détails. Tu peux quand même vraiment bien gagner ta vie juste avec ça déjà. Donc ça, c'est une première chose.
Okay. C'est intéressant.
Un assez gros podcast. Sur un assez gros podcast parce qu'il n'y a pas énormément d'autres podcasts et que comme c'est une cible qui est quand même très qualitative, si tu veux, les annonceurs sont quand même prêts à payer assez cher.
Oui, c'est très qualifié au final, bien sûr.
Et puis souvent, comme c'est des sujets qui sont très spécifiques malgré tout, même si moi, c'est l'entrepreneuriat souvent, n'importe quelle boîte qui veut s'adresser à des entrepreneurs, il sait où il faut aller. Et donc pour eux, c'est génial parce que c'est une cible qui est quand même assez... qui est très captive même, je ne vais pas le dire de manière négative, mais en gros, quand on écoute un podcast, on met ses écouteurs, le message, c'est 1 minute en début d'épisode, en plus recommandé, donc c'est vraiment de l'influence. Franchement, ça fonctionne très très bien. Enfin, je veux dire, le résultat, en tout cas, de manière publicitaire, et je peux dire ça parce que je suis dans une autre vie aussi annonceur.
Oui, c'est ça. Ouais.
En fait, d'ailleurs, on fait de la pub, nous, avec ma boîte, sur des podcasts, parce que ça marche très bien.
Ouais.
Donc ça, c'est le premier business model. Et le deuxième, mais que je trouve plus intéressant en réalité, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire le business model indirect. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu commences à créer une communauté, et c'est le cas malgré tout avec un podcast, surtout après via les autres réseaux sociaux où les gens se retrouvent pour parler du podcast, etc., eh bien, ça permet aussi d'avoir plein d'autres métiers à côté. Donc, il y a des podcasteurs qui font des conférences, il y a des podcasteurs qui lancent plein d'activités, si tu veux, parallèles en lien avec leur podcast. Moi, en l'occurrence, mon activité, parce que je suis passionnée par l'entrepreneuriat, c'est d'aider, en fait, notamment des jeunes entrepreneurs ou je monte jusqu'à, on va dire, des gens qui ont jusqu'à 45-50 collaborateurs à vraiment développer leur activité. J'essaye, en fait, d'aider des gens en fait à vraiment scaler leur activité, à en faire quelque chose, si tu veux, qui devienne un petit peu indépendant d'eux. Parce que très souvent, ce que je constate, c'est que les gens arrivent à lancer l'activité, mais pour passer de zéro à moi, à ensuite plus, et surtout que ça ne devienne pas un cauchemar et que je n'ai pas envie de me jeter par terre en mourant tous les jours, tous les soirs, tellement je suis crevée, en fait, c'est assez difficile. Ouais. Et le problème, c'est qu'il y a des écoles de commerce, il y a des MBA, mais souvent, ce n'est quand même pas très opérationnel, ça coûte très cher. Et donc, en fait, un espèce de MBA, si tu veux, plus accessible, je trouve que ça n'existe pas trop. Donc, moi, en fait, c'est ça mon autre business model, mais finalement, tu vois, qui est assez loin quand même du podcast.
Ouais, bien sûr. Non, mais c'est intéressant, c'est relativement loin, mais en même temps, ça amène au moins une visibilité à « ça existe, je fais ça à côté ». Et parfois, tu peux aussi avoir envie d'un service parce que c'est cette personne-là qui propose ce service
bien
en
sûr.
Disant « j'aurais peut-être pas pensé à faire ça un jour, mais du coup, comme c'est cette personne-là que je connais via le podcast, mais c'est intéressant de voir aussi… »
Il y a une confiance assez forte, quoi. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que… Alors, je ne sais pas si c'est fréquent, mais dans mon cas, ce qui est arrivé, c'est que je n'avais absolument pas pensé que j'allais lancer ce business.
Ouais.
C'est « j'ai lancé le podcast ». J'ai une communauté d'entrepreneurs qui s'est créée autour de moi ou de personnes qui sont intéressées par le monde du business, le management et tout. Et en fait, j'avais tellement de demandes de coaching, de machin.
Oui, le besoin à créer ce business.
Tu vois, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, il faut juste déjà que je les aide, tu vois. Ouais. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lancé ce deuxième format des leçons du gratin.
Ouais.
Parce qu'en fait, je voulais juste répondre à la demande déjà en me disant, bah, plutôt que de répondre sur Instagram individuellement aux gens, je vais juste scaler la chose et donc, en fait, répondre à une personne, mais que ça profite à 20 000. Et ensuite, maintenant, je le fais encore plus personnalisé.
C'est bien parce que, comme vous avez entendu, elle m'a félicité indirectement. Parce que j'ai lancé un format il y a quelques temps qui s'appelle « Vos questions ne restent pas sans réponse ». Et donc, je réponds aux questions des gens directement sur... Mais par la même raison que toi, en fait, de se dire... Attends, je ne pourrais pas répondre comme ça à tout le monde un par un, mais ça peut être intéressant parce que quand on globalise les réponses... servir à tout le monde. C'est juste passionnant tout ça. Ça fait à peu près 20 minutes qu'on est ensemble. En général, on fait 20-25 minutes. On n'est pas trop long parce que nous, on s'écoute sur les trajets. Ça, c'est l'excuse que je donne pour expliquer qu'ils ne sont pas trop longs, mes podcasts. C'est quoi les projets pour le gratin? Est-ce que il y a des ambitions dans le futur? Est-ce qu'il y a des envies dans le futur? Ou il y a juste aussi l'envie très louable de se dire je continue comme ça, une par semaine, c'est très bien, c'est très cool.
Écoute, alors je continue, ça c'est sûr, et déjà s'imposer la discipline, toi tu la connais aussi, de deux contenus par semaine, c'est déjà pas mal.
Bien sûr.
Donc ça, c'est clairement un truc que je veux continuer à faire. Je m'interdis pas du tout de faire de nouveaux formats sur le podcast, mais en fait, moi, mes ambitions au-delà du podcast et de le développer et de rencontrer toujours des personnes différentes, ça va être surtout de développer cette activité, donc la partie plus entrepreneuriale, on va dire, tu vois, sur le coaching, et d'autre part, de multiplier en fait les médias, parce que le podcast, c'est un format qui est hyper adapté, je trouve, à des temps assez longs quand même, malgré tout, entre 20 minutes et plus.
Bien sûr.
Et en fait, je me rends compte qu'il y a aussi l'opportunité de pouvoir donner des conseils très courts, très actionnables sur l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je ne vois pas énormément de contenu là-dessus. Donc en fait, typiquement, YouTube, les réseaux sociaux sont des meilleurs leviers pour faire ça. Donc en fait, ça va faire partie de mes projets, du coup, de multiplier les contenus, tu vois, de recycler d'une certaine manière les contenus du podcast ou d'en inventer d'autres sur des formats beaucoup plus courts. Mais c'est un challenge pour moi parce que je n'ai pas l'habitude.
Mais ça, c'est très bien. C'est pour moi une des clés. Et c'est quelque chose que je fais énormément. C'est-à-dire que pour moi, un contenu intéressant à produire, là, c'est l'entrepreneur qui parle, mais s'il est utilisé au moins 3 fois. Tu vois, il y a des vidéos que j'ai faites sur YouTube en 2016, dont le contenu a nourri mon premier livre. Et aujourd'hui, ces vidéos, elles ont été reformulées, elles servent sur Facebook et sur Instagram. Mmh. Et là, je me dis, OK, on a fait une vidéo intéressante à ce moment-là parce que l'énergie, elle a été dispersée comme ça 4 à 5 fois Donc, je te souhaite un gros succès là-dessus.
Bah, c'est adorable.
Merci beaucoup, Pauline, d'être venue aujourd'hui. Tu es ma première vraie invitée. Alors, non pas que Loïc n'était pas un vrai invité, mais Loïc, il travaille avec moi. Donc, c'était un peu comme ton premier invité. J'ai joué la facilité d'avoir quelqu'un à mes côtés.
Tu as quand même un meilleur matos que moi à l'époque.
Ah oui, mais ça, c'est parce que je joue au mec qui fait de la radio. C'est pour ça.
Génial. Vous devriez voir la scène. Hein. Franchement, c'est exceptionnel.
Je vous mettrai une photo à l'occasion. Mais oui, je joue à ça. Mais donc, voilà, c'était une chance et vraiment un plaisir, une chance de t'avoir avec moi aujourd'hui. Je vous recommande d'aller taper sur votre plateforme Le Gratin pour écouter un petit peu ce que c'est et avoir la possibilité de mettre après en parallèle ce qu'elle vient de dire et ce que vous pouvez écouter chez elle. Et puis en tout cas, si vous écoutez mon podcast pour le côté entrepreneur, vous serez ravis de découvrir le sien. Merci beaucoup, je te dis à la prochaine avec grand plaisir. Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous demain à midi si je suis là en direct, parce que c'est tous les jours à midi du lundi au vendredi, sauf si je ne suis pas là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pensez à laisser une note sur le podcast, c'est ce qui soutient et fait connaître. Et on va écouter les conseils de Pauline. N'hésitez pas à partager. Rendez-vous demain à midi, à très bientôt. Ciao, salut Pauline.
Salut.
Hippocampe, faites tremper votre cerveau à midi, du lundi au samedi, en direct et sur Storm, et à 13h sur toutes les plateformes. We'll be right back.